Radio Okapi. Oh, Okapi.
Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être à l'écoute de Radio Okapi. Ravi de vous retrouver, je suis Gisèle Cage pour votre rendez-vous avec l'information. Voici les principaux faits qui dominent l'actualité. Est de la RDC, l'Ituri replonge dans la violence. À Djougou, FARDC et CRP s'affrontent dans des combats faisant des morts et des blessés. À Liri, des attaques accompagnées d'incendies ravivent la peur, fragilisant davantage les cessez-le-feu entre les deux camps. Alerte Ebola au Nord Kivu, Beni, Butembo, Goma. La société civile sonne l'alarme. Dispositif insuffisant, désinformations persistantes et riposte jugée trop faible face à la menace. En vue du journal, cap sur 2028, les enjeux déjà sur la table. Le professeur Félicien Kabamba analyse les défis et les perspectives des prochaines élections en RDC au cœur de réflexions issues du séminaire de Mbujimayi. Entretien avec Esther Ndalafina en fin de journal. La situation sécuritaire s'embrase à nouveau dans l'est de la RDC. Les signaux virent au rouge. En Ituri, la tension franchit un nouveau cap. Vendredi, dans le territoire de Djougou, 4 combattants de la CRP abattus, 2 autres grièvement blessés lors d'affrontements avec les FARDC. Des combats violents signalés au village de Liri où la rébellion de Thomas Lubanga a frappé fort. Selon des sources sécuritaires, les assaillants ont incendié des positions de l'armée réduisant plusieurs huttes en cendres. Et déjà, l'indignation monte. Des activistes de droits humains dénoncent une violation du cessez-le-feu unilatéral proclamé par la CRP le 14 mai dernier. Alors, que s'est-il vraiment passé sur le terrain? Élément de réponse avec Martial Kizabiamongo.
Selon nos informations, c'est dans la mi-journée de vendredi qu'un groupe d'éléments CRP a attaqué une position de FARDC au village de Liri. Objectif, c'est ravitailler en armes et munitions afin de déloger les forces loyalistes de cette entité pour avoir accès au centre commercial de Boulé, affirment des sources sécuritaires. Les mêmes sources avancent un bilan des 7 éléments de la CRP neutralisés, plus un autre qui a succombé à ses blessures la nuit de vendredi à samedi au site de la plaine Savo où il recevait des soins avec deux de ses compagnons d'armes grièvement blessés par balle. Par ailleurs, un char de combat de la MONUSCO qui intervenait pour protéger le site de deux blessés de la plaine Savo a essuyé des coups de balle qui ont endommagé ses pneus. C'est le premier accrochage entre le FARDC et les miliciens de la CRP depuis que ce mouvement armé a décrété unilatéralement un cessez-le-feu le 14 mai dernier pour donner une au processus de paix en cours au pays. Bounia, Martial Kizabiamongu, Radio Okapi.
Après ces tensions sécuritaires à l'est, cap maintenant sur Bandundouville pour une autre actualité. C'est là que s'est clôturé jeudi 21 mai un atelier consacré aux relations entre partis politiques et médias à l'initiative de l'Institut pour la démocratie et le leadership politique. Pendant 2 jours, une cinquantaine de participants issus des formations politiques et des maisons de presse ont pris part à ces échanges. Au cœur des discussions, 4 grandes thématiques dont le rôle clé des partis et des médias dans la consolidation de la démocratie en République démocratique du Congo. Les participants ont également planché sur l'éthique, la communication politique responsable et la promotion de la paix à travers les médias et les acteurs politiques. Écoutez le professeur émérite Pamphile Mabiala, l'un des intervenants dans cet extrait recueilli par Jean-Claude Tengamou.
Puisque nous voulons communiquer politiquement correctement, nous devons travailler autrement et ardemment pour ne pas enterrer la démocratie, mais promouvoir et consolider cette démocratie. Nous devons travailler pour que le gouvernement ne soit pas le gouvernement d'un homme seul. Il faut qu'il y ait l'alternance politique, alors ce ne sera pas une égocratie. Nous voulons également éviter que nous ayons un système démocratique qui s'appelle laocratie, liturgie politique, où les étrangers et les locaux sont dans le même gouvernement, ça c'est inacceptable. Nous voulons également éviter que notre démocratie soit une zérocratie, zéro. Sans Loco Pamba. Alors la démocratie, c'est pas sans Loco Pamba, c'est le gouvernement des meilleurs, vous choisissez les meilleurs et qu'ils puissent régner. Enfin, nous voulons une démocratie anthropocentrique, c'est-à-dire une démocratie qui travaille pour l'intérêt de l'homme, le peuple d'abord et le peuple toujours. Si nous travaillons pour cela, alors notre pays se portera bien, sera en paix et travaillera pour le développement.
À Kinshasa, attention à l'Assemblée provinciale. Le député provincial Jared Panzo Babaka monte au créneau en ligne de mire la gestion de son interpellation visant le ministre provincial des infrastructures et travaux publics. L'élu dénonce une procédure imposée par le bureau qu'il juge non conforme au texte et attentatoire au pouvoir de contrôle parlementaire de députés provinciaux. Entre lecture controversée du règlement, divergence d'interprétation et défense de prérogatives parlementaires, le bras de fer s'installe au sein de l'institution. Retour sur cette polémique avec Christian Makasinga.
Le député provincial Jared Panzo dénonce l'exigence d'une nouvelle présentation suivie d'un vote de recevabilité, une procédure qu'il considère contraire aux articles 191 et 201 du règlement intérieur. Il rappelle qu'en vertu de l'article 191, une question orale avec débat peut être transformée en interpellation lorsque l'auteur n'est pas satisfait de la réponse obtenue. Selon Jared Panzo, cette transformation a été régulièrement effectuée en séance plénière avant son dépôt officiel auprès du bureau de l'Assemblée. En plénière, c'est vendredi 22 mai, Jared Panzo a également soutenu qu'aucune disposition des textes ne prévoit qu'une interpellation issue d'une question orale avec débat soit soumise à un second vote des recevabilités. Pour lui, imposer cette formalité supplémentaire constitue une interprétation extensive du règlement intérieur et un précédent dangereux susceptible de limiter les droits des députés provinciaux dans l'exercice du contrôle parlementaire. Face à cette situation, l'élu dit avoir refusé de se conformer à une procédure qui juge destinée à entraver la poursuite de son action parlementaire.
Malgré nos tentatives, le bureau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa n'a pas encore donné suite. Cap maintenant sur le Nord Kivu où l'urgence sanitaire refait surface. Les coordinations de la société civile de Beni, Butembo et Goma, ainsi que celles des territoires de Beni et Lubero, lancent un appel urgent aux autorités provinciales et nationales renforcer immédiatement la riposte et la prévention contre l'épidémie d'Ebola. Dans une déclaration conjointe publiée jeudi à Beni, ces structures citoyennes interpellent également la population à faire barrage à la désinformation. Elle déplore par ailleurs l'absence de dispositifs de prévention et de prise en charge dans plusieurs zones du Grand Nord. Extrait de cette déclaration avec Richard Kirimba, vice-président de la société civile du territoire de Beni, un extrait proposé par Martial Papimukeba.
Comme des cas sont déjà signalés en province du Nord Kivu, à provenance de l'Ituri, les entités de Beni, Butembo, Lubero et Goma sont largement exposées, surtout connaissant des trafics réguliers, rapides et permanents avec Goma, entre Goma, Butembo, Beni et avec l'Ituri, voire avec l'Ouganda. Il est regrettable de constater que, malgré ce contexte de crise et d'urgence, jusqu'à cette date du 22 mai 2026, il n'y a ni disposition dispositif de prise en charge ni dispositif de prévention dans les lieux publics du Grand Nord Kivu. Curieusement, cela s'observe même dans les structures sanitaires. La société civile déplore également le retard dans la sortie des résultats pour des échantillons déjà prélevés, alors que parmi les cas suspects, il y a déjà des décès au Grand Nord Kivu. Cette situation met en danger toute la population en général et en particulier les prestataires de santé.
Toujours au Nord Kivu, la situation se complique davantage. À Goma, l'AFC M23 annonce la suspension de tout mouvement des populations entre le nord et le sud de la province à partir de ce samedi. Officiellement, une mesure pour freiner Ebola. Mais concrètement, c'est l'isolement qui s'installe. Après la fermeture des frontières par le Rwanda et l'Ouganda, cet axe routier représentait le dernier lien entre les deux parties de la province, malgré son état dégradé et le risque d'embuscade. Résultat, depuis aujourd'hui, les habitants se retrouvent bloqués dans l'impossibilité de quitter la ville. Le point sur cette situation avec Jean-Gandou Kabongo.
Officiellement, le 1-23 justifie cette fermeture par l'urgence sanitaire. Il faut à tout prix stopper la propagation du virus Ebola. Le trafic des marchandises, lui, reste autorisé, mais sous conditions strictes. Désormais, seuls les chauffeurs et son convoyeur ont le droit de monter à bord des camions de marchandises. Pourtant, entre le nord de la province, sous contrôle gouvernemental, et le sud, occupé par le M23, les mouvements de la population sont toujours intenses. Un habitant note que cette coupure vient frapper aussi le secteur de la finance.
À Goma, vraiment, nous essayons juste de survivre du fait que pour trouver le cash, il faut quitter Goma. Alors, ça ne nous rend pas la vie facile. Nous demandons vraiment aux autorités de pouvoir faire quelque chose.
Les banques de Goma sont fermées depuis le début de la crise en janvier 2025. Pour faire tourner l'économie locale, de nombreux habitants et opérateurs économiques n'avaient qu'une solution, rouler jusqu'à Beni pour y récupérer de l'argent liquide ou traverser la frontière. C'est ce cash qui alimentait ensuite les points de retrait Mobalima de la ville. Aujourd'hui, ce circuit de survie est coupé. Un analyste local demande aux autorités de Kinshasa et celles de facto qui vivent à Goma de trouver d'urgence les voies d'une riposte sanitaire conjointe. Car, rappelle-t-il, la santé et l'éducation sont apolitiques et doivent passer avant les conflits.
Restons dans les enjeux sanitaires, mais direction cette fois le Congo central. À Kiazikolo, dans le secteur de Boko, l'heure est grave. Le médecin directeur de la zone de santé de Boko, Kivulu, appelle à la construction urgente des latrines. Dans ce village, la défécation à l'air libre et l'utilisation de cours d'eau contaminés exposent la population au choléra, une maladie qui a déjà fait 8 morts. Écoutons le docteur Conissus les mains au micro d'Élise Kavira.
On a envoyé les superviseurs chargés de eau, hygiène, assainissement et l'animateur communautaire de la zone qui sont descendus dans le village actuellement touché. Et on a aussi apporté quelques intrants. Ce qui est vrai, tout ce village-là, la contrée, a des problèmes de latrines. La santé vient sensibiliser, mais la loi doit venir frapper. Ce n'est pas nous qui allons sanctionner. C'est comme ça qu'on avait dit au chef du secteur. Il est souhaitable que, avec les services de sécurité, qu'ils montent une stratégie. Là où nous partons sensibiliser, il faudrait qu'il y ait des actions correctrices. Mais là où cela avait commencé, quand on a eu à sensibiliser, la population qui avait vu les décès, de ce côté-là, la population s'adapte déjà à notre message. Maintenant, là où ça a commencé, maintenant récemment, là où il y a eu des décès, c'est hier que nous sommes allés sensibiliser. Et certainement aussi, il y aura l'impact. Puisqu'au cas contraire, ils vont fuir les villages.
Autre secteur clé, les ressources naturelles, riches en minerais mais pauvres en retombées. La RDC peine toujours à transformer son potentiel en véritable levier de développement. Entre exploitation artisanale mal encadrée, fuite de recettes vers l'étranger et contrôle insuffisant du commerce minier, plusieurs députés nationaux dénoncent un manque à gagner énorme pour le pays. Ces préoccupations ont dominé les échanges jeudi à l'Assemblée nationale lors de la question orale avec débat adressé au ministre de Mines, Lewantum Kabamba. Face à cette situation, les élus appellent à des réformes urgentes pour mieux encadrer le secteur et garantir que les richesses minières profitent enfin à l'économie nationale. Parmi eux, le député Mudekereneza Namegabe, élu de Bukavu, insiste notamment sur l'assainissement de l'exploitation artisanale. On l'écoute dans cet extrait recueilli par Grace Amzati.
Il faut arriver à régler la question du secteur minier, surtout artisanal. Comme vous l'avez fait pour le cobalt, il faut le faire pour les autres secteurs, le coltan, la cassérite, l'or. Aujourd'hui, on parle de la banque centrale qui veut acheter l'or. C'est avec ça que le pays aura la garantie et aura des supports pour la monnaie. Parce qu'avec ça, on peut l'acheter en francs une partie et une partie en dollars. Le secteur minier, l'exportation, c'était même géré par l'extérieur. Pour qu'on exporte nos propres produits, il fallait que les organismes internationaux viennent pour certifier, pour accepter que les produits, ça provient du Congo. Si réellement les ministres va continuer à assainir le secteur et arriver, comme on a fait avec Arescom, parce que les autres organismes prélevaient plus de 500 à 1000 dollars par tonne et l'argent n'arriverait pas au Congo, restait à l'extérieur. Si vous pouvez arriver à organiser ces services et arriver aussi à avoir une sorte de guichet unique, ça va rassurer les partenaires pour venir investir au Congo, surtout dans le secteur minier. C'est un secteur très important et c'est un secteur où nous devons nous y mettre pour développer ce pays.
À présent, un dossier d'infrastructure qui fait grincer des dents dans le nord du pays. À Guémena, la voirie urbaine reste au point mort. Les travaux de réhabilitation piétinent dans la capitale du Sud-Ubangi au grand désarroi des habitants. La société civile monte au créneau et pointe du doigt l'entreprise Imo Cercas en charge du chantier. De son côté, l'entreprise évoque des difficultés financières et affirme attendre le paiement par le gouvernement des factures liées à des travaux déjà réalisés à hauteur de 60%. Une situation qui bloque tout et qui inquiète. Plus de détails avec Blaise Ndongala Mayonda.
À Radio Kapi, l'un des responsables de l'entreprise Imo Cercas a reconnu la lenteur des travaux de ce projet de 10 km censé faciliter la circulation des personnes et de leurs biens dans la ville de Guémena. Cependant, il indique que son entreprise traverse des moments difficiles sur les plans financiers et attend pour l'instant le paiement de ses factures auprès du ministère des Finances afin d'acheminer ses engins et autres matériels qui se trouvent encore à Kinshasa. Selon le chargé des communications du Mont Cercas, ses engins se trouvent une partie au port de l'Onatra et une autre au port de Pointe-Noire au Congo-Brazzaville. Sam Malebo assure également qu'une fois ses fonds seraient disponibles, ses matériels arriveront à Guémena et les travaux s'accéléreront avant de déclarer, je cite, ces travaux peuvent être achevés dans quelques mois et je dirais avant la fin de l'année 2026, fin de citation. Radio Kapi a tenté en vain d'obtenir les réactions du ministère des Finances dans ces dossiers. Pour rappel, l'entreprise Imo Cercas a déjà réalisé plusieurs infrastructures de base dont les routes construites autour du palais présidentiel à Kolwezi dans la province du Lualaba.
Actualité internationale.
L'Iran accuse les États-Unis d'entraver les efforts de paix avec des exigences excessives ce samedi 23 mai. Ces tensions surviennent alors qu'un échange des caps de Donald Trump alimente les inquiétudes sur une possible reprise des hostilités. Lors d'un échange avec le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, le chef de la diplomatie iranienne, Abbas Araghchi, a dénoncé les positions contradictoires et demandes répétées de Washington. Selon lui, ces attitudes perturbe les discussions en cours menées sous la médiation du Pakistan. Malgré ses réserves à l'égard des États-Unis, Téhéran affirme rester engagé dans le processus diplomatique avec l'objectif d'aboutir à un accord raisonnable et équitable. Dans ce contexte, le chef de l'armée pakistanaise, le maréchal Asim Munir, s'est rendu à Téhéran le 22 mai pour soutenir la médiation. Les discussions ont porté sur les initiatives visant à éviter une nouvelle escalade dans la région.
L'invité.
Place à l'invité de ce journal et à un enjeu majeur pour l'avenir politique du pays. Le professeur Félicien Kabamba décrypte le défi, les enjeux et les perspectives des élections prévues en 2028 en République démocratique du Congo. Un sujet au cœur d'un séminaire de réflexion qui s'est tenu à Mbujimayi dans les Kasaï orientales à l'initiative du Conseil régional de l'ONG de développement avec l'appui de la Fondation Konrad Adenauer. Les professeurs Félicien Kabamba répond aux questions d'Esther Ndalafina.
Bonjour, professeur Félicien Kabamba.
Bonjour.
Pourquoi le CRONG, en collaboration avec la Fondation Konrad Adenauer, a organisé à Mbujimayi un atelier de 2 jours sur les enjeux, les défis et les perspectives des élections de 2028 en République démocratique du Congo?
Merci beaucoup, madame. Je voudrais d'abord commencer par dire que la Fondation avait commencé par organiser le forum international sur le 20 ans de la constitution de la RDC. Et c'était un forum qui avait réuni la grande crème intellectuelle du pays. Il y avait des partis politiques, majorité opposition. Et ce forum avait un caractère international parce qu'il a connu la présence des acteurs internationaux. Au cours de ce forum, toutes les questions liées à notre constitution ont fait l'objet d'un très très grand débat. Aujourd'hui, on est en 2026 et les élections auront lieu dans 2 ans. Partant sur les discussions qui ont eu lieu sur la constitution, la Fondation a envisagé d'organiser cette activité. Elle n'a pas seulement été organisée ici, elle a aussi été organisée ailleurs dans d'autres provinces. C'est pour discuter de la faisabilité des élections en 2028. Comment les partis politiques s'y préparent? tant au niveau de l'opposition que de la majorité, tant on sait qu'il y a des préalables que certains partis ont posés pour l'organisation de ces élections. C'est autour de ça que cet atelier a été organisé et évidemment, à travers des discussions qui ont eu lieu dans la salle, on se rend compte que le chemin est encore très long pour organiser les élections de 2024.
Quels sont, selon vous, les principaux enjeux qui caractérisent le processus électoral en RDC aujourd'hui sur le plan institutionnel que sur le plan politique?
Vous savez qu'on d'abord on ne crée pas les partis politiques pour balayer la rue, on crée les partis politiques pour le pouvoir, soit pour le conquérir, soit pour l'exercer. Et les élections ont également un rôle de stabilisation. Un rôle. Les élections peuvent vous apporter la paix, mais les élections peuvent aussi vous apporter une crise politique. Et donc, voilà pourquoi il faut réfléchir sur la meilleure manière de les organiser pour éviter qu'elles nous plongent dans une grande crise. Nous avons toujours eu l'habitude d'aller vers l'opposition et la majorité pour le mettre ensemble afin de créer cette discussion autour de la meilleure manière de gagner les élections. Nous pensons que, en continuant sur cette manière de faire les choses, on peut arriver à, probablement pas à mettre tout le monde d'accord sur tout, mais à pouvoir créer des créneaux de discussion entre les différents acteurs politiques.
Quels sont les défis majeurs identifiez-vous lors de cet atelier, notamment en matière de transparence, de logistique électorale, de sécurité et de confiance du public?
Alors, nous avions eu à mettre ensemble l'opposition, majorité, société civile et même la CENI, pouvoir faire le point et discuter sur ce qui n'a pas marché lors des élections passées et ça pouvait nous permettre d'envisager un avenir dans le sens de diminuer les déficits qui ont été déplorés. Et donc, je crois que beaucoup de choses ont été dites dans la salle allant dans le sens d'une amélioration des élections en 2028 si les élections ont lieu. Et donc, voilà, il y a eu le groupe de discussions qui ont été constitués et qui ont rendu des recommandations extrêmement intéressantes.
Quelles perspectives ou pistes de solutions ont émergé de cet atelier pour améliorer ou renforcer la gouvernance électorale et prévenir les tensions liées au scrutin futur?
Oh bon, il y a eu énormément de recommandations qui ont été faites, allant dans le sens de mettre tous les acteurs ensemble. Il faut que les acteurs soient ensemble. C'est ainsi que les uns sont allés dans le sens d'un dialogue, mais cela avec une position défendue par l'opposition, pendant que les autres parlent bien sûr de changement de la révision de la Constitution. C'est quelquefois des positions difficilement conciliables, mais il s'est dégagé là qu'il y avait quand même nécessité que les acteurs politiques se mettent ensemble pour arriver à dégager une voie de sortie. Parce que si chacun reste muré dans sa position, on n'en sortira pas. L'idée, c'était de rapprocher de position que les acteurs se parlent. Et donc, je crois qu'on a réussi à le faire, même si de temps en temps, il y a des petites tensions. Mais en fait, c'est aussi ce qui caractérise la démocratie, c'est cette discussion cordiale, cette entente entre les différentes parties, dialogue entre eux, ils se parlent, même si de temps en temps, il y a une tension dans la salle, mais on se rend compte que les acteurs se sont parlés.
Quelles recommandations concrètes formulez-vous à l'issue de cet atelier pour garantir les élections plus transparentes, apaisées et inclusives en RDC?
Alors, la seule chose, c'est qu'il faut aller aux élections quand on se met d'accord sur la manière dont les élections vont être organisées. Les règles de jeu, et je crois que cela est possible.
Professeur Félicien Kabamba, merci.
Je vous remercie.
Voilà cet échange avec le professeur Félicien Kabamba qui a analysé pour nous les enjeux, les défis et les perspectives des élections de 2028 en République démocratique du Congo. C'est la fin de ce journal d'information du samedi sur Radio Okapi. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez réécouter cette édition en podcast sur www.radiookapi.net ainsi que sur nos plateformes numériques. Ce journal vous a été présenté par Gisèle Cage, mise en onde Jean-Claude Nsiala. Coordination éditoriale, Jude Mystère Bilanda. Bonne suite de programme et excellent week-end à toutes et à tous.